Bienvenue sur Numar. Numar, c'est le podcast de l'art au temps du digital. Nous interviewons des personnalités influentes du monde de l'art qui nous donnent leur vision du numérique dans l'art.
Pendant le premier confinement, j'ai rencontré Nicolas Tissot sur Instagram. Il est collectionneur d'art et il partage ses coups de cœur sur le réseau social. Bonjour Nicolas. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Peux-tu, s'il te plaît, te présenter ?
Oui, donc je m'appelle Nicolas Tissot. J'ai donc une grande passion pour l'art. J'achète de l'art, je vais voir des expositions dans des musées, des galeries, dans des lieux d'exposition d'art, tout type d'art. Principalement l'art visuel, donc c'est-à-dire tout ce qui est peinture, sculpture, installation. Mais j'aime bien aussi aller au théâtre, la musique, lire des livres, voilà. Mais c'est principalement l'art contemporain qui me fait vibrer dans le cadre de ma collection, en fait.
Ok, très bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à être collectionneur ?
Bah en fait, depuis tout petit, j'ai cette fibre de collectionneur. C'est-à-dire que depuis le plus loin dont je me souvienne, j'ai toujours collectionné des choses, que ce soit des cartes Pokémon, que ce soit des figurines, que ce soit des petites statues égyptiennes, tout un tas de choses en fait. Et donc, cette fibre de collectionneur, d'accumulation d'objets, je l'ai déjà depuis tout petit. Et après... Mais forcément, quand on est petit, on n'a pas de quoi s'acheter, même avec son argent de poche, des œuvres d'art. Et donc après, c'est des visites de musées, de galeries, mais ça m'a un peu mis le pied à l'étrier, sans forcément. Puis ensuite, j'ai rencontré les bonnes personnes qui étaient collectionneurs eux-mêmes et qui m'ont introduit dans le milieu. Ça peut être intimidant hein, d'entrer dans les galeries d'art à première vue. Et puis, en fait, pas du tout. Hein, il faut vraiment oser franchir le pas. Ce n'est pas dramatique. Et donc, voilà. Une fois qu'on commence, en fait, c'est comme tout. Une fois qu'on commence, on ne peut pas s'arrêter. J'ai un ami récemment qui a commencé à acheter sa première pièce. Et depuis, il en veut une deuxième. Donc, c'est assez addictif.
Et donc, c'est toi qui l'as conseillé et c'est toi qui l'as mené
Tout à fait. Ben, en fait, c'est... donc on est collègues, hein, on se connaît physiquement, mais il voyait mon compte Instagram, il aimait bien, et puis à un moment donné, il m'a dit que, à force de le voir année après année, non seulement il aimait bien ce que je postais, mais en plus, ça lui donnait l'envie d'acheter aussi, parce qu'il savait que j'étais collectionneur, et donc il a cherché à acheter une pièce, donc je lui demandais le point de départ, c'est qu'est-ce qui lui plaît. Et donc ensuite, de fil en aiguille, il a fini par acheter une pièce.
D'accord. Et c'était quoi comme pièce ?
Alors, c'est une œuvre d'un artiste que je collectionne aussi et c'est un tableau, ouais.
Ok. Alors là, tu viens de parler d'Instagram. En effet, nous, on s'est rencontrés grâce à Instagram et je voulais savoir comment tu es tombée dans la grande famille qu'est Instagram. Tu as beaucoup de followers. J'ai ton compte Instagram sous les yeux. Tu en as exactement 35 000.
Et j'ai passé les 35.
34,9, cool. Mais ça va, j'ai arrondi.
Ah, presque, oui, presque.
Comment tu te sers d'Instagram et quelle utilité tu en as tous les jours ?
Alors, au départ, je ne voulais pas ouvrir un compte Instagram. Et à un moment donné, tout le monde l'utilisait. Donc, j'ai dû ouvrir mon compte Instagram en 2016, je crois. Et j'ai voulu faire un peu comme tout le monde. Et parce que principalement, avant, je publiais toutes mes publications de photos d'art, de visites d'exposition sur un autre réseau social bien connu, dont je ne citerai pas le nom, mais que tout le monde peut facilement identifier. Et voilà, donc j'ai commencé du coup à publier les photos davantage sur Instagram, puisque c'était voilà, une application de partage de photos, donc c'était assez ludique. Mais je me vois pas comme Instagrammeur, c'est-à-dire que je publie voilà, de temps en temps, pas tous les jours ou ce genre de choses. Et il s'est avéré que de fil en aiguille, eh bien, les gens ont apprécié le contenu, vu que j'ai eu de plus en plus de likes, de commentaires, de followers. C'est vrai que depuis le changement d'algorithme récent d'Instagram, il y a beaucoup moins de likes, mais ça, ce n'est pas grave, puisque je ne fais pas ça pour gagner ma vie, donc... Ce n'est pas des statistiques qui m'importent vraiment.
Et j'imagine que tu as rencontré pas mal de personnes sur Instagram. Est-ce que les gens sur Instagram te demandent des conseils pour collectionner l'art?
Alors c'est vrai que je reçois beaucoup de messages via Instagram. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Malheureusement, j'essaye, mais j'ai mon propre métier à côté. Donc c'est difficile de concilier les deux. J'essaye de ne pas passer ma vie sur Instagram, même si c'est quand même très addictif. On a envie de voir plein de choses. L'utilité que j'ai avec Instagram, c'est vraiment d'être au courant de ce qui se passe, puisque maintenant, comme l'a montré le confinement, on ne peut pas être partout. Et donc, avoir accès à des expositions, ce qui se passe dans les galeries, dans des musées au bout du monde, sans avoir à se déplacer, c'est quand même fortement appréciable. Et puis, c'est plus écolo aussi, soit dit en passant. Mais donc, c'est vrai que on peut découvrir plein de choses, des artistes qu'on ne rencontrerait pas dans la vraie vie parce qu'on n'a tout simplement pas accès à ces artistes-là. Et puis, en un clic, en un lien, en un hashtag, on a accès à des profils et c'est très appréciable. Donc, c'est vrai que le corollaire du fait d'avoir beaucoup d'abonnés, c'est que ben, beaucoup de gens vous envoient des messages et c'est difficile de pouvoir répondre à tout le monde. Donc après, je reçois beaucoup d'invitations à des événements, des invitations toujours VIP à des foires, à des événements pour pouvoir justement assister à l'événement en priorité et puis en parler après sur mon compte. Alors, la différence par rapport à avant, c'est qu'avant, bon, comme je suis collectionneur, j'étais invité dans les foires et les événements VIP à chaque fois, mais le but était pour acheter. Et là, avec Instagram, c'est que le but, c'est non seulement potentiellement d'acheter, ça ferait plaisir, je pense, mais aussi de parler de l'événement. Donc, il y a ça aussi qui. C'est une deuxième, deuxième, c'est un deuxième aspect de ce parcours via Instagram, en fait. Mais c'est vrai que donc, du coup, c'est des invitations, c'est aussi. Des présentations de travail, des artistes qui m'envoient leurs travaux, en plus de me taguer dans leurs publications, et puis ou tout simplement pour discuter d'un sujet ou autre, puisque en ce moment je publie un peu tous les jours une citation, une pensée sur le monde de l'art ou juste un ressenti. Et donc des gens commentent cette publication que je fais dans mes stories, et donc voilà, il y a des échanges qui se font, ou alors ben, les commentaires sur mes publications. J'ai remarqué d'ailleurs, c'est vrai que depuis le changement d'algorithme d'Instagram, avant j'avais beaucoup de likes et pas beaucoup de commentaires, et maintenant c'est l'inverse. La proportion a changé, et comme j'essaye de répondre à tout le monde, alors il y a des jours c'est pas évident, mais comme j'essaye de répondre à tout le monde, c'est vrai que des fois bah, il y a des échanges qui se font sous une publication, puisqu'il y a une réponse à chaque fois, et donc ça fait des petites discussions comme ça fortuites, donc c'est vrai que c'est toujours intéressant.
Et donc, tu étais en train de dire que tu avais rencontré des artistes sur Instagram. C'est une parfaite transition. Comment connais-tu les artistes que tu apprécies et que tu
Alors,
collectionnes?
la plupart du temps, j'ai vu les œuvres en vrai, donc dans des galeries, dans des musées ou dans des foires d'art. Mais je suis plusieurs, même beaucoup d'artistes sur Instagram, par exemple. Et donc voilà, visuellement, je vois leur travail, je vois à quoi ça correspond. Mais c'est peut-être des artistes à l'autre bout du monde, hein, ou que j'ai même jamais vu, tout simplement. Et donc voilà, donc je n'ai jamais vu leurs œuvres en vrai, mais visuellement, c'est intéressant. Et donc je les suis. J'aime bien suivre sur la longueur et sur la durée les différents artistes. D'ailleurs, il y avait un artiste que je ne connaissais pas du tout et je l'ai découvert pendant la pandémie sur Instagram avec les différentes initiatives qu'il y avait pour soutenir les artistes. Et ben, j'ai acheté plusieurs dessins hein, de ces artistes. Donc voilà.
Très bien. Et que penses-tu de l'art digital?
Alors l'art digital, ça englobe beaucoup de choses. Pour moi, l'art digital, il y a un pan photo, il y a un pan vidéo, il y a un pan tout ce qui est capture de performance, qui est différent de l'art vidéo, je trouve. Et après, il y a tout ce qui est création numérique via ordinateur. Donc, il y a ces différents pans. Donc, il y avait avant l'ère du NFT, comme je l'appelle, c'est que il y avait les vidéos qui étaient faites et puis travaillées par ordinateur et imprimées, les vidéos qui étaient prises travaillé par ordinateur et puis ensuite mis sur support, voilà, que ce soit une tablette ou un ordinateur ou un écran, une clé USB, enfin quelque chose pour avoir ce support-là. J'ai même vu des artistes qui faisaient des vidéos et qui créaient le support adapté. Et donc l'acheteur achetait non seulement la vidéo, mais également le support qui permettrait de montrer du coup la vidéo. Et puis voilà, après, il y a tout ce qui est performance, donc j'ai vu des performances, voilà, notamment. Il y a plein de grands artistes qui ont fait des performances dans leur vie. Notamment, je me souviens de toutes les grandes performances de Marina Abramovic, qui, les seuls souvenirs qu'on en a, à moins d'y avoir assisté, c'est les vidéos qu'elle en a faites. Donc, ce n'est pas vraiment une vidéo à proprement parler. Pour moi, c'est vraiment une capture de performance. Et ensuite, il y a toute la création digitale avec l'ère des... Même si ça existait avant les NFT, mais les NFT ont vraiment poussé ça de manière importante, je dirais.
Et justement, du coup, que penses-tu des NFT ?
Alors, les NFT, je trouve que c'est un bon concept. C'est un bon concept dans le sens où ça permet d'authentifier quelque chose. Mais un NFT n'est pas forcément adossé à quelque chose de digital. Ça peut, c'est principalement le cas, mais on peut très bien qu'un artiste peut très bien créer un NFT pour une œuvre physique. C'est possible parce que ça atteste de la possession, en fait, de la propriété d'une œuvre. Donc, par définition, elle peut être soit digitale, soit physique. Plus digitale que physique, mais il y a toutes les évolutions qu'on anticipe dans le futur sur lesquelles j'aime bien m'intéresser à propos de la possession de choses digitales. Donc, cet environnement NFT peut améliorer. Après, malheureusement, je trouve qu'il y a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire que comme c'est un peu un Eldorado, voilà, les NFT, tout le monde s'y lance, tout le monde se lance dedans et donc il y a à boire et à manger. Certains artistes comme Beeple, par exemple, sont devenus très connus grâce à ça, mais il y a des artistes qui créent avant physiquement, qui se lancent aussi dans le digital, qui sont très connus, donc ils permettent d'avoir une grande population de followers qui suit leur travail, donc qui se lancent là-dedans. Mais il y a également plein d'inconnus qui se lancent dans le domaine des NFT, mais le fait de lancer un NFT ne veut pas dire qu'on est un bon artiste. Voilà, c'est seulement un support et donc il y a à boire et à manger. Certains sont très bons. Alors du coup, moi, personnellement, je n'ai pas encore acheté de NFT, même si je m'y intéresse fortement. Je suis notamment en contact avec la créatrice de la plateforme Art Farm Future qui s'appelle Jessica Swady et qui par son compte Instagram et on échange régulièrement. On partage ses connaissances sur les NFT, donc elle crée aussi des NFT et donc je m'intéresse aux choses, mais comme dans tout, que ce soit les œuvres d'art physiques d'artistes ou même les cryptos, hein, je me lance pas tête perdue là-dedans. J'essaie de voir à peu près, d'apprendre comment ça fonctionne, de voir un peu l'évolution et à terme j'y viendrai, mais tout de suite ça me semble un peu jeune.
Ok. Donc, tout à l'heure, tu parlais des NFT, notamment de Christie's. Où est-ce que, enfin, t'en as parlé indirectement, où est-ce que toi, tu achètes? Tu as dit dans les galeries, mais est-ce que tu participes aussi aux événements dans les salles de vente? Est-ce que tu es en contact direct avec des artistes? Bon, ça, tu l'as déjà dit tout à l'heure sur Instagram. Mais où achètes-tu? Et il y a une deuxième question, que penses-tu de l'expérience d'achat digital dans les maisons de vente?
Moi, c'est vrai que depuis le départ, enfin depuis que j'ai commencé à collectionner, c'est beaucoup dans les galeries. Voilà, que ce soit des jeunes galeries ou des galeries très connues. J'ai acheté de temps en temps aux enchères, mais pas tant que ça, mais un peu tout de même. Et puis directement auprès d'artistes, mais c'était physique. Là, pendant la pandémie, c'est la première fois à acheter, comme je disais tout à l'heure, à des artistes que je ne connaissais pas, que j'ai seulement trouvé sur Instagram et ça m'a plu, donc j'ai acheté à ce moment-là. Mais donc, c'est vrai que ça, cette pandémie, le côté positif par rapport à ces achats en ligne, c'est que ça a démocratisé l'achat en ligne. En fait, beaucoup de gens se sont mis à acheter des œuvres d'art en ligne sans les avoir vues physiquement une première fois. Après, j'ai tout de même quelques réserves par rapport à ça. Comme je disais tout à l'heure, j'ai acheté deux artistes sans avoir vu les œuvres avant physiquement via Instagram. En général, quand j'achète aux ventes aux enchères ou même lorsque les galeries nous envoient les PDF en preview pour les foires d'art ou leurs expositions, en général, je connais l'artiste, je connais le travail, donc je sais ce que j'achète sans même l'avoir vu. Pour les nouveaux artistes, donc j'en ai acheté que deux pour le moment, sans les avoir vus avant, c'est différent en fait, puisqu'on ne sait pas, en fait, quand on voit une photo sur l'ordinateur ou sur l'écran de téléphone, on ne sait pas ce qu'on va recevoir physiquement. Et donc, il y a toujours la crainte de recevoir quelque chose qui ne va pas nous plaire. Ça ne m'est pas arrivé. À chaque fois, ça m'a plu. Donc, j'ai acheté un artiste sur Instagram, j'ai acheté un artiste via la plateforme Art Farm Future dont je parlais tout à l'heure. Et Voilà, ça m'avait plu dans les deux cas, mais il y a toujours cette petite appréhension de se dire, est-ce que ça va me plaire quand je vais recevoir, c'est comme quand on achète un vêtement sur Internet, et on se dit, est-ce qu'il va
Bien sûr.
m'aller? Bon, ben là, du coup, j'achète quelque chose, est-ce que ça va me plaire? Donc ça, je m'étais un peu plus renseigné d'abord sur l'artiste en question que ce que je fais d'habitude quand je connais l'œuvre physique, puisque quand on connaît l'œuvre physique, on a la confrontation physique avec l'œuvre, et donc on a l'émotion et on sait ce qui se passe. Avec une photo, c'est plus difficile. Donc, il y avait cette petite appréhension qui ne s'est pas confirmée puisque les œuvres n'ont plus in fine. Mais c'est vrai que quand on connaît l'artiste, c'est plus facile d'acheter en ligne que quand on ne le connaît pas.
Ok, et là tu viens de parler de la vente en ligne. Est-ce qu'il y a une assurance, par exemple, si tu reçois une offre que tu n'aimes pas, est-ce que tu peux la renvoyer ou, comme un vêtement justement ou pas?
Alors, bah, dans les galeries, quand j'achète, en général, je sais ce que j'achète. Ça ne peut pas ne pas me plaire, puisque je connais le travail de l'artiste, c'est juste que je reçois les PDF. Ça m'est arrivé une fois dans une galerie, je dînais avec le galeriste, sa galerie était fermée, puis son assistante publie à un moment donné une photo sur Instagram, et puis à un moment, j'ouvre mon téléphone, et puis je vois la photo, je lui demande, mais tu as ça dans ta galerie? Il me fait, oui. Je lui fais, ah, ça m'intéresserait de le voir. Du coup, après le dîner, il devait être 23 heures, on est retourné à la galerie. Il a ouvert la galerie, m'a montré l'œuvre en physique et j'ai dit OK, je la prends. Mais en général, alors, je sais ce que j'achète. Donc c'est rare que ça ne me. Enfin, je n'ai eu aucun cas où ça ne m'a pas plu. Donc, parce que je connaissais le travail. Après, un exemple que j'ai en tête, par exemple, c'est la plateforme Art from Future dont je parlais tout à l'heure. Sur leur site, ils proposent justement un remboursement. Si jamais l'œuvre, une fois reçue, ne nous plaît pas, on peut la renvoyer. Alors, dans quelles conditions? Il y a plusieurs conditions. Ça ne m'est pas arrivé. Donc, je n'ai pas testé le cas de renvoyer l'œuvre, mais c'est ce qu'ils proposent sur leur site. Et je connais Jessica, je lui fais confiance, donc je suis sûr que ce ne sont pas des paroles en l'air.
Bien sûr, évidemment. Okay. Donc oui, donc il y a une réassurance, une assurance. Okay.
Mais après, je pense que c'est pareil pour plusieurs. Il y a plein de plateformes qui sont connues. Bon, je n'ai pas les noms en tête qui me viennent tout de suite, puisque je n'achète pas chez eux, mais voilà, je sais qu'il y a plusieurs plateformes qui proposent de restituer de renvoyer les œuvres si ça ne plaît pas, un peu comme les vêtements. Si ça ne nous
Oui.
va pas, hop, on renvoie. Bon, il y a le risque d'endommagement de l'œuvre. Plus une œuvre voyage, plus elle risque d'être endommagée. Donc après, il y a des assurances et tout. Mais moi, je n'ai pas eu le cas personnellement où j'ai dû renvoyer quelque chose.
Ok, bah très bien. Est-ce que tu achètes par coup de cœur? Évidemment, tu l'as dit et on sent ta passion dans tout ce que tu dis. Mais est-ce que aussi tu achètes de temps en temps par cote de l'artiste?
Alors là, on rentre dans le sujet qui fâche.
Ah.
Donc, si je commence à parler trop vite, c'est que je suis sous le coup de l'émotion, donc il faut me prévenir pour que je ralentisse le rythme.
Ok.
J'aborde tout ce qui est investisseur dans le monde de l'art. Donc, que ce soit dit une bonne fois pour toutes, je trouve ça totalement nul. Bon, les gens ont le droit de le faire. C'est autorisé, c'est légal, donc ils le fassent. Moi, je n'aime pas ça pour une seule et simple raison. C'est quand j'aime un artiste, en général, je n'achète pas une pièce, j'en achète plusieurs tout au long de la carrière de l'artiste. Et quand les investisseurs commencent à rentrer, à monter au créneau, en fait, le problème, c'est que du coup, les prix montent assez vite. Et donc, assez vite, donc c'est bien quand on a déjà des œuvres, je ne vais pas me plaindre, je veux dire, quand les prix montent, je suis content. Mais mon objectif, c'est pas de revendre les œuvres. Et du coup, mon problème, c'est que derrière, quand les prix montent, à un moment donné, je ne peux plus acheter. Et donc, malgré le fait d'aimer l'œuvre de l'artiste, ben, on ne peut plus acheter parce qu'on n'a plus les moyens, puisque les prix sont montés trop haut. Et donc, c'est pour cette raison que je n'aime pas les investisseurs, c'est que ils achètent que pour se faire de l'argent. Et donc, le problème, c'est ils s'en fichent un peu du travail de l'artiste ou de l'artiste. Ils achètent juste pour avoir un nom, une cote et gagner de l'argent. Et le problème, c'est que ceux qui aiment vraiment, du coup, ne peuvent plus à un moment donné acheter, puisque les prix sont trop chers. Et comme tout le monde n'est pas milliardaire, dans la vie, on a un budget. Et donc, quand on a un budget, ben, à un moment donné, on ne peut pas dépasser ce budget. Donc, ben, quand les prix deviennent trop élevés, ben, il se passe qu'on est obligé de faire des arbitrages entre plusieurs artistes et plusieurs œuvres. Et donc, ben, des choix s'opèrent. Et à un moment donné, il y a des artistes qu'on aime et qu'on suit depuis longtemps, mais qu'on ne peut plus acheter, puisque l'arbitrage fait qu'on ne peut plus les acheter, quoi. Donc, c'est pour cette raison que je n'aime pas les investisseurs. Alors après, j'en connais. Ils sont très sympas. Mais je ne les pousse pas à acheter les artistes que j'aime bien, donc du coup, je ne leur en parle pas.
Tu as tout à fait raison. Et une dernière question, que conseillerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans la collection d'œuvres d'art?
Alors, je dirais que, si on part du postulat que la personne s'est déjà un peu renseignée sur le monde de l'art, qu'elle n'arrive pas sans rien y connaître, voilà, que ça lui plaise déjà, donc je dirais que la règle numéro un, c'est d'acheter des choses qui nous plaisent. Puisque de nos jours, il y a énormément, énormément d'artistes dans le monde entier, il y a énormément de gens qui veulent collectionner, qui ont les moyens d'acheter de l'art, et donc, il y en a pour tous les goûts, d'accord ? Du coup, je dirais que le but principal, c'est d'acheter ce qu'on aime. Puisqu'avoir un tableau sur son mur qu'on n'aime pas, et c'est le risque quand on est investisseur en art, c'est que je trouve qu'ils achètent des choses qu'ils n'aiment pas forcément, mais bon, c'est autre chose. Voilà, donc la règle numéro un, c'est d'acheter des choses qui nous plaisent. La règle numéro 2 que j'essaie de me suivre, c'est de ne jamais emprunter d'argent pour acheter. Puisqu'une œuvre d'art n'est pas quelque chose de liquide. Donc, si à un moment donné, on a un pépin de santé, on a un problème avec sa maison, il faut racheter une voiture, ben, on ne peut pas vendre l'œuvre d'art dans la seconde pour pouvoir se faire de l'argent, comme ça peut être le cas, par exemple, quand on a de l'argent sur un compte d'épargne, ce genre de choses, on peut récupérer des sous. Là, une œuvre d'art, ben, le problème, c'est qu'on ne peut pas. Donc, s'endetter pour acheter une œuvre d'art, moi, je trouve ça compliqué. Certains le font, je trouve que c'est un peu dangereux. Donc, en général, j'évite de le faire. Ou alors, ça m'est arrivé de le faire une fois, mais c'était parce que j'attendais mon salaire du mois suivant. Donc, je veux dire, ce n'était pas non plus un grand risque.
Bien sûr.
Mais l'endettement est toujours compliqué. Puis après, la troisième règle, ça fait suite à l'arbitrage dont je parlais tout à l'heure, c'est que quand on a plusieurs œuvres, là, on peut commencer à réfléchir. À se dire, voilà, j'ai plusieurs œuvres qui me plaisent, j'ai les moyens d'en acheter, le problème, c'est que je ne peux pas tout acheter. Donc, qu'est-ce que je fais par rapport à mon budget? Donc là, c'est vrai que des gens qui s'y connaissent peuvent nous aider à nous aiguiller pour nous dire, voilà, c'est plus intéressant d'acheter tel artiste, puisque historiquement, l'empreinte dans l'histoire de l'art va être plus intéressante, plus forte. C'est vrai qu'en général, j'essaie d'acheter des choses qui me seront ou qui me sont, puisque maintenant j'arrive à un niveau qui font que des musées me demandent de prêter à des expositions de musées, par exemple. Et donc du coup c'est ça qui est intéressant de rechercher, c'est quand l'œuvre en question va être demandée pour des expositions dans les musées, parce que c'est une œuvre intéressante qui est jugée très intéressante. Et donc entre une œuvre moyenne ou une œuvre passable et une œuvre intéressante, il faut plutôt privilégier l'œuvre intéressante qui sera potentiellement de facto plus chère ou alors plus petite qu'une autre œuvre pour le même prix, puisque c'est un artiste qui est vu comme étant prometteur et donc une œuvre intéressante. Donc après, ce n'est pas forcément, je dirais, on peut faire un parallèle avec l'investissement en art, mais je ne trouve pas, puisque l'investissement en art, pour moi, c'est juste le fait de faire de l'argent. Le fait de réfléchir à avoir des œuvres d'art intéressantes dans la collection, donc qui de facto vont prendre de la valeur, puisque si c'est intéressant, l'artiste va être connu, donc ses œuvres vont prendre de la valeur, ça va de pair. Mais et c'est la bataille que se font les grands collectionneurs. Je me considère pas comme un grand collectionneur à mon niveau, mais un collectionneur tout de même, c'est qu'on recherche toujours la perle rare, la pièce qui va faire qu'on va nous envier. Mais donc le but n'est pas de la revendre avec une plus-value plus tard, c'est vraiment juste d'avoir acquis la pièce qui va faire date, en fait.
Et justement, comment tu te rends compte de ça? Comment tu dis, entre deux œuvres, comment tu sais qu'il y en a une qui va prendre de la valeur et l'autre qui ne va pas en prendre? Comment tu fais la différence entre les deux?
Ça, c'est l'expérience qui fait. Donc, à mon niveau, je suis encore obligé d'être conseillé. J'arrive à identifier des bons artistes ou la qualité sur une œuvre, mais je suis encore jeune. Donc, j'écoute beaucoup, j'apprends beaucoup. Je suis souvent invité à des dîners, des événements un peu VIP où peu de gens ont accès. Et donc, j'essaye à chaque fois de m'imprégner des gens qui sont autour de moi, d'apprendre avec eux. Je me vois un peu comme une pierre brute, une pierre blanche où il faudrait, une pierre qu'il faudrait tailler un peu avec la connaissance pour pouvoir faire quelque chose de beau après. Et donc, je suis dans ce processus de me rendre beau intellectuellement et philosophiquement aussi. Et donc, j'essaie de quitter la pénombre, d'aller vers la lumière et de faire en sorte que ce que je peux vivre et les conseils que je peux recevoir, les gens avec qui je peux discuter, qui vont apprendre beaucoup de choses, de me construire et de faire en sorte que je puisse à mon tour devenir quelqu'un de complet et d'aguerri et de pouvoir… Je trouve que c'est le moment de la jeunesse, c'est là où on est censé apprendre beaucoup. D'avoir cette sagesse, de pouvoir faire en sorte d'évoluer intellectuellement, puisque c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire, c'est tous ces gens qui ne jurent que par le culte de la beauté. Sauf que le culte de la beauté, tu fais ton corps, il arrive à un point, puis après, il ne peut que se délabrer. Donc, tu ne fais que lutter contre le temps en permanence. Alors que quand tu travailles ton esprit, ton cerveau, ben, une fois que tu l'as fait, tu ne peux qu'aller vers le haut, c'est exponentiel. Tu ne peux pas oublier ce que tu sais ou les connaissances que tu as acquises. Donc, du coup, je privilégie mon cerveau, j'avoue. Je trouve que c'est la bonne démarche à faire. Et donc, voilà, c'est acquérir ces connaissances, cette sagesse qui me fera devenir quelqu'un de bien, j'espère, à l'avenir. Et donc, en général, je ne parle pas beaucoup pendant ces dîners-là, ces événements-là. J'essaie justement d'écouter les gens, de participer aux conversations, mais pas en écoutant ce qu'ils ont à dire, et jusqu'à ce que je me sente prêt pour pouvoir partager à mon tour ce que je sais. Mais c'est vrai que j'essaie beaucoup d'accumuler des connaissances, d'écouter, d'apprendre de ceux qui sont autour de moi.
Bah, c'est très sage et très poétique et très enrichissant ce que tu dis. Dernière question, est-ce que tu peux nous parler d'un artiste que tu aimes beaucoup, voire de ton artiste préféré, et de la galerie que tu préfères, s'il te plaît?
Alors, je dirais que… Alors, dans ma collection, j'aime tous les artistes. Je n'achète aucun artiste que je n'aime pas, ce qui serait complètement débile. On ne va pas revenir sur le côté investisseur des gens qui achètent n'importe quoi juste pour gagner de l'argent, mais en général, un collectionneur achète ce qu'il aime. Donc, après, il y a des artistes que j'achète plus que d'autres, puisque ben, certains sont plus chers que d'autres, donc on peut avoir moins de pièces, ou d'autres ont des prix relativement raisonnables sur la durée, donc du coup, ça permet d'en acheter plus. Donc, en général, je n'achète pas une œuvre d'un seul artiste. Dans ma collection, j'en ai un, où j'ai qu'une seule œuvre d'un artiste, puisque les prix étaient quand même assez conséquents. Mais en général, j'essaie d'avoir plusieurs œuvres d'un même artiste, puisque c'est bien de voir l'évolution et de voir le cheminement de l'artiste par… Puisqu'une œuvre qu'un artiste fait il y a 10 ans ne sera pas la même que maintenant. Et donc, on voit ce cheminement qui arrive et qui est très intéressant. Donc, j'aime bien avoir plusieurs œuvres d'un même artiste, puisque c'est important de suivre un artiste, parce qu'en achetant des œuvres, on le finance. Et donc, si on le finance, il n'est pas obligé d'avoir un autre métier à côté. Il peut se consacrer totalement à son œuvre. Et donc, il a l'esprit libre de pouvoir créer, de pouvoir réfléchir. Et même s'il ne crée pas physiquement, il réfléchit, il s'imprègne des choses. Et donc, il se prépare à la prochaine création. Donc, c'est important de le supporter financièrement pour qu'il puisse créer. Donc, c'est à ça que participe le collectionneur. En achetant les œuvres, il participe voilà, à faire en sorte que l'artiste puisse pleinement créer et donc faire des choses exceptionnelles, peut-être pas tout de suite, mais dans le futur. Et donc, si je devais en choisir un, je parlerais de l'artiste Rahanan Levy. C'est un artiste que je poste beaucoup sur mon feed Instagram et qui plaît beaucoup. En général, quand je publie une de ses œuvres, il y a énormément de likes et de commentaires. Donc, je vois que c'est quelque chose qui plaît. Donc, je ne suis pas le seul à aimer. Mais donc, c'est vrai que j'ai eu la chance, par exemple, de prêter plusieurs œuvres de ma collection à la Fondation MAG, qui lui a dédié une grande exposition il n'y a pas longtemps. Et j'ai plusieurs œuvres de lui. Et donc, c'est le premier artiste que j'ai acheté. Donc, j'avais acheté un tableau de lui. C'est la première œuvre. Et il était très content que… Bon, je le connaissais d'avant, mais que je décide de débuter ma collection en achetant une de ses œuvres. Donc, ça l'avait vraiment touché que je le choisisse lui pour débuter… ma collection, donc c'est vrai que j'ai tendance à le mettre en avant. En plus, de la très bonne peinture, c'est un très bon travail. C'est un artiste maintenant qui a eu des expositions dans plusieurs musées. Donc, il est connu et il est collectionné dans le monde entier. Donc, c'est vraiment un très, très bon artiste qui, j'espère, créera encore pendant très longtemps pour permettre au plus grand nombre de pouvoir voir ses œuvres, acheter ses œuvres aussi, si les gens peuvent se le permettre. Et donc, voilà, après, en termes de galerie, j'achète dans plusieurs galeries ou même je fréquente plusieurs galeries sans forcément acheter. Si je devais en citer une, je citerais… après, forcément, il y a les grandes galeries Templon, Gagosian, Almin Reich, toutes ces grandes galeries, Perrotin, Castengrève. Voilà, c'est les galeries qui font le monde de l'art, hein, puisque les grands artistes sont chez eux. Mais si je devais en citer une, je pourrais citer, par exemple… la galerie Christian Berst à Paris qui se spécialise dans l'art brut.
Ok, merci beaucoup Nicolas pour cette interview que Merci. Je trouve très intéressante. Et si vous voulez le suivre sur Instagram, son pseudo, c'est Nicolas-Tis. Donc, merci beaucoup, Nicolas.
Voilà, l'épisode est fini. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir écouté. Vous trouverez toutes les notes de l'émission sur le site numar.fr. N'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux et plus particulièrement sur LinkedIn et Instagram. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous avez aimé et que vous souhaitez nous aider, nous serions très contents que vous nous laissiez une note et un commentaire sur vos plateformes de podcast préférées. Cela nous permettra d'avoir plus de visibilité. Merci encore et à très bientôt pour un prochain épisode.